À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Dominique.
Bonsoir Alain.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent.
Bien, on va commencer par l'actualité, comme d'habitude. Alors on va parler de Lampedusa, on en entend beaucoup parler avec la nouvelle tragédie au large de Lampedusa, de migrants qui dont les bateaux ont chaviré. Certains ont été recueillis, d'autres malheureusement pas. Lampedusa, peut-être que beaucoup ne le savent pas, est une île, tout le monde sait que c'est dans la Méditerranée, tout le monde sait que c'est au large de la Sicile. Par contre, je ne sais pas si tout le monde sait que c'est une toute petite île qui a 20 km², qui a moins de 6000 habitants. Si vous représentez des communes de la région, c'est 4 fois moins que la population de Bourgoin. On parlait tout à l'heure de villages autour, c'est de gros villages de notre région, de toutes petites villes, quoi. Moins de 6000 habitants, donc c'est à 200 km au sud d'Agrigento. Si j'insiste sur la superficie et le nombre d'habitants, c'est évidemment parce que ça situe bien le problème de fond quand même. Donc c'est une île qui est située entre Malte et la Tunisie et qui fait partie de la province d'Agrigento en Sicile. Donc.
Et qui est plus proche de la Tunisie que
absolument,
de la péninsule.
Absolument, elle est plus proche de l'Afrique du Nord que de l'Italie. Mmh. Et puisqu'elle est à 205 km, enfin on ne parle pas en kilomètres en mer, mais si on le devait faire à vol d'oiseau, 205 km de la Sicile, 167 km de la Tunisie, donc beaucoup plus proche, 220 km de Malte et 355 km de la Libye, puisque souvent les bateaux partent et de Libye et de Tunisie. Donc cette île, on en a effectivement beaucoup parlé. Le fait qu'elle soit proche de la Tunisie et la Libye explique que les embarcations de fortune partent de là-bas avec des passeurs qui se graissent beaucoup par des sommes demandées aux migrants qui sont de plus en plus importantes. Alors ces passages datent pas d'aujourd'hui, hein, puisque en 92 déjà il y avait des migrants qui partaient de ces continents. Et il y a même eu à une époque deux marins qui avaient été condamnés parce qu'ils avaient sauvé des migrants, des marins italiens qui avaient été condamnés au départ. Enfin ils étaient passés au tribunal parce qu'ils avaient sauvé des migrants et on disait qu'ils favorisaient l'immigration. Bon, tout ça, c'était une époque qui est révolue. Mais évidemment, si on regarde les chiffres, en 2007, par exemple, il y a 30 000 migrants qui sont arrivés, c'est-à-dire 5 fois plus que la population de la commune. Et puis évidemment, ça va de façon croissante actuellement. Ce qui se passe en ce moment, donc vous avez sans doute entendu parler aussi que le nouveau président du Conseil italien, qui est Enrico Letta, depuis 4-5 mois, il est en poste. Il vient de prendre une mesure militaro-solidaire, humanitaire, on va dire, en faisant une opération qu'on appelle Mare Nostrum, et qui est une opération qui consiste à mettre dans la Méditerranée, entre les deux continents, plusieurs bateaux avec des frégates, des patrouilleurs, il y a des hélicoptères, des drones aussi, pour surveiller tous ces bateaux. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on voit les bateaux qui arrivent et souvent des désastres avec des gens qui se noient à quelques nœuds, on va dire, de la côte. Mais il y a aussi beaucoup de bateaux qui coulent, dont personne n'entend jamais parler. Et on n'a aucune idée du nombre exact de gens qui se sont noyés dans ces passages. Alors, Enrico Letta et son gouvernement ont essayé de prendre quelques mesures et ont alerté une nouvelle fois l'Europe, parce qu'évidemment, c'est l'Europe entière qui est concernée par ce désastre humanitaire, puisque s'ils arrivent à Lampedusa, c'est évidemment pas uniquement pour aller à Lampedusa, c'est pour venir en Europe dans beaucoup de pays différents, puisqu'ils n'ont pas a priori en tête au départ un pays proprement dit, mais l'Europe comme terre d'asile, voilà ce qu'ils souhaitent. Donc, une nouvelle fois, le gouvernement italien, comme le gouvernement maltais d'ailleurs, a alerté l'Europe. Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de déranger beaucoup de gens, et on laisse les Italiens et les Maltais se débrouiller avec ça. Mais là, il y avait une rencontre récente, un sommet entre l'Italie et la Finlande, et le président finlandais de la République finlandaise, lui, adhéré au projet de l'ETA, et je pense que ça va peut-être enfin bouger. Alors c'est un problème évidemment extrêmement compliqué, qui est dû à cette grosse différence entre le Nord et le Sud, entre des pays supposés riches et d'autres qui ne le sont pas, même si dans nos pays riches, il y a beaucoup de pauvres. Mais c'est un problème dramatique, parce que des gens qui partent pour trouver un Eldorado et puis qui finalement n'arrivent jamais au bout, ou voire arrivent dans des conditions désastreuses, c'est sûrement pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Alors, je crois que tu voulais nous parler, Dominique, d'un angle qu'on aborde très peu sous ce problème de Lampedusa. On parle toujours effectivement de ce problème politique, de ce problème de nombre de personnes qui arrivent, de problèmes de passeurs, de problèmes de dictature au départ. Mais on parle peu de l'attitude de la population de Lampedusa. Et je crois que tu as vu un article récent qui en parle, justement.
On a entendu plusieurs témoignages à la radio. Et puis, dans cet article de La Croix que j'ai sous les yeux, on parle de ce marin-là qui a secouru 47 personnes. Quelques heures avant, il préparait son bateau pour une sortie de pêche. Et puis, il a entendu des cris... il a alerté le voisinage, c'est lui qui a prévenu les premiers secours, mais en attendant, il est parti avec son bateau et son équipe, et ils ont pu recueillir 47 personnes, et ce qu'il dit est très touchant, et il n'est pas le seul. Alors les commerçants sont partagés, parce que, bien sûr, cette publicité désastreuse qui est faite sur les naufrages, sur l'île, leur fait craindre d'avoir un petit peu moins de tourisme, mais en même temps, ils sont infiniment respectueux de toutes ces personnes en détresse. Et je crois que ça a été très émouvant, effectivement, de les entendre à la radio. Et puis, je voudrais dire une deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de Lampedusa, on parle des naufrages. Et parfois, on oublie de parler de l'origine de ces départs. On oublie de parler, par exemple, de l'Érythrée, où les conditions de vie sont absolument abominables. Un pays qui est dominé par une dictature féroce, un pays excessivement pauvre, où les gens n'ont pas de quoi vivre, et ils n'ont qu'une envie, évidemment, c'est de fuir. Donc on devrait davantage insister sur cette fuite plutôt que sur cette présumée invasion, qui n'en est pas une du
pas
tout,
du tout hein,
numériquement,
du tout.
C'est dérisoire.
Si on rapporte le nombre d'immigrés qui réussissent à arriver, par rapport à la population d'Europe, c'est ridicule. Quoi. Ouais. C'est sûr que c'est ridicule.
Et puis juste peut-être quand même un dernier chiffre, hein, pour se rendre compte, il y a quand même, ça a coûté la vie à 360 migrants érythréens et somaliens. Et puis que quelques jours après, il y avait un nouveau bateau qui faisait naufrage entre Malte et Lampedusa, hein, et qui a fait également 30 morts. C'est quand
même
considérable.
Plus ceux, effectivement, qui n'arrivent jamais. C'est-à-dire dont on ne connaît pas, effectivement, le nombre de noyés ou de gens qui n'ont jamais pu arriver.
Et puis je voudrais pour terminer, citer cette parole du pape qui donc s'est déplacé à Lampedusa, le premier peut-être des hommes célèbres de cette planète, et qui a parlé de globalisation de l'indifférence, et je pense que c'est très fort, et on devrait réfléchir davantage à sa globalisation de l'indifférence.
C'est vrai que c'est un... Enfin, tout ça n'honore pas notre humanité, c'est vrai que c'est dramatique. Quoi. Alors, il y a deux films que moi je vous recommande, un qui était Respiro, qui avait été tourné à Lampedusa il y a quelques années, de Crialese. Et Crialese a fait un autre film plus récent, celui-là, qui s'appelle Terra Ferma, et qui traite en fait de ce, entre guillemets, problème de migrants. On voit bien là... à la fois le côté accueillant des gens de cette petite île ou d'île toute petite similaire, et aussi le problème que ça peut poser au niveau des habitants, des pêcheurs notamment. Par exemple, les pêcheurs de Lampedusa, beaucoup ont sauvé beaucoup de vies. Et en même temps, maintenant, ils ont une appréhension folle d'aller au large parce que souvent, ils pêchent des poissons, mais ils pêchent des corps aussi. Et ça, c'est absolument dur. Et on imagine mal pour ces personnes combien ça peut être traumatisant. Alors, je vous conseille donc d'aller voir Terra Ferma, qui est un film magnifique. Alors, on va écouter un morceau lié à l'immigration. C'est un morceau d'un rocker français qui chante souvent, d'ailleurs quasi exclusivement en anglais, qui s'appelle Little Bob. Mais là, on va l'entendre en italien parce qu'en fait, ce Little Bob s'appelle tout simplement Roberto Piazza. Il est né au Havre, mais il est de parents italiens, puisque son père, Libero, c'est souvent un prénom qu'on donne dans les milieux anarchistes. Et Libero Piazza, donc, avait immigré en France et au Havre. Et il a eu Roberto, et Roberto Piazza, donc Little Bob, nous chante là une chanson qui s'appelle Vivere e Sperare, Vivre et Espérer, et qui traite complètement de ce problème de migrants.
Allez.
Erano nascosti in fianco all'autostrada, aspettando che il cielo sera diventi scuro, fumavano uno spillo per calmarsi i nervi, abbagliati dai fanali delle macchine continuano a passare. Sono lì sulle rocce, lì vicino al mare, aspettando gli stranieri che vogliono attraversare, rischiano la vita e sono numerosi, 30 su un barcone con niente da mangiare. La gente ha perso tutto, meno la vita e il coraggio, han pagato caro tributo di passaggio, non sanno cosa trovano, non sanno dove vanno, vogliono solo vivere. Vivere e sperare, vivere e sperare, vengono dappertutto, dall'Africa all'Asia, dall'Europa dell'Est, Mohammed e Anastasia, credono nella terra promessa qui, dove il sole è più bello, e il cuore riscaldare. E qui ci siamo noi, che viviamo il progresso, con i nostri problemi si avanza lo stesso, internet, la TV, la politica, il calcio, a dare un po' del nostro amore. Dobbiamo imparare!
Voilà, donc Little Bob, Roberto Piazza. Une autre information qui a été très très peu diffusée sur nos antennes ou notre presse, mais il y a eu une décoration à titre posthume, enfin une distinction à titre posthume de Gino Bartali. Je suppose que beaucoup des auditeurs savent qui est Bartali. On parlait de Poulidor et Anquetil, de Ino Fignon, de Armstrong, je ne sais plus qui. Et à une époque, il y avait le fameux duel Coppi-Bartali, comme on disait en France. L'un, Coppi, qui était un coureur, qui était un petit peu, sinon en marge, mais qui avait des tas de qui, par exemple, avait une aventure avec la fameuse Dame Blanche à une époque où le divorce n'existait pas en Italie, enfin, qui défrayait la chronique. Et puis, il y avait Bartali, le pieux, mais le cycliste toujours besogneux, qui faisait bien son boulot et qui a couru tard, hein, puisqu'il a gagné deux Tours de France à 10 ans d'écart. Et donc Gino Bartali donc a été distingué comme juste parmi les nations. Et pourquoi il a été distingué comme juste parmi les nations? Parce que pendant l'occupation allemande en Italie, à partir de septembre 1943, il faisait partie d'un réseau de sauvetage qui avait été conduit par le rabbin de Florence, Nathan Cassuto, avec l'archevêque de Florence, qui s'appelait Angelo Dalla Costa. Et comment Gino a aidé ce réseau? Ben, il leur servait de messager, en fait. Qu'est-ce qu'il faisait? Et comme il s'entraînait, évidemment, beaucoup, il faisait beaucoup de bicyclettes, il allait de ville en ville, ce qui est une évidence quand on est coureur cycliste et qu'on s'entraîne, donc il portait les documents falsifiés dans sa bicyclette. Et sous le couvert de son entraînement, sous prétexte de s'entraîner, mais il s'entraînait quand même, hein, bien sûr, il transportait ses documents falsifiés et qu'il a donc risqué sa vie pour sauver des Juifs. On dit d'ailleurs plusieurs centaines de Juifs, alors certains disent 800, je ne sais pas si on peut dénombrer un nombre précis, mais voilà quelle était l'attitude de Bartali, qui était toscan. Hein. Donc il se rendait dans son entraînement, il parcourait la Toscane et l'Ombrie, mais il allait aussi à Gênes, parce que l'entraînement d'un coureur cycliste est toujours, on l'oublie, parce que des affaires actuellement qui nous font oublier que ce sont des gens qui sont quelqu'un qui quand même passe des heures sur un vélo. Et là, à Bartali, il n'était pas rare qu'il fasse 350 km d'entraînement en aller-retour. Il faisait le tour des couvents, avec dans sa selle et dans le cadre du vélo des documents, des faux papiers, des photos. C'est assez incroyable. Alors, il y a une interview de son fils, Andrea, qui dit qu'en fait, il rapporte les propos de sa maman, bien sûr, il ne parlait quasi jamais de ça, il n'a jamais évoqué ça en famille, et Bartali était quelqu'un qui n'aimait pas le côté spectaculaire, c'est-à-dire quand on fait une action, on l'a fait pour l'action elle-même, on n'est pas là pour la vanter à qui veut l'entendre. Et en fait, ils ont beaucoup appris de son activité, de ce type d'activité, après sa mort, en fait, quand il y a eu des recherches qui ont commencé à être faites parce qu'on voulait distinguer justement ce cardinal Dalla Costa et par le biais de ce cardinal Bartali. Voilà. Et Bartali, donc, il y avait une autre anecdote sur Bartali, sur lequel on va passer rapidement, mais en 48, il y a un étudiant qui avait tenté d'assassiner Togliatti, qui était le président du Parti communiste à l'époque, le leader du Parti communiste italien, et donc il l'avait blessé, et il y avait eu une émeute incroyable en Italie, mais pour éviter un drame, et quasi, non pas une guerre civile, mais presque, le président De Gasperi à l'époque, et qui connaissait Bartali de réputation évidemment, sur le Tour de France, lui avait téléphoné en disant « Il faut absolument que demain tu gagnes une étape parce que les gens étaient toujours rivés sur la radio et il faut voir le cyclisme, l'importance que ça avait. » Il a gagné l'étape et il a gagné le Tour de France d'ailleurs de cette année-là de 48. Voilà. C'était une anecdote qui me semblait intéressante et ce n'est pas qu'une anecdote, cette distinction et ce courage qu'a eu Bartali. Alors on va écouter une chanson, on va lui rendre un hommage par une chanson de Paolo Conte qui s'appelle Bartali.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che faccio lo fa. Ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cine, vai al cine, vacci tu. Zazzarazzaz, 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 zazzarazzaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scoltrose, ho forse in voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai.
mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che io sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu.
Oui, alors la chanson parle d'un couple qui attend, qui voit le passage des coureurs. Visiblement, il le situe en France parce qu'il parle des Français qui font une grise mine parce que Bartali est en tête. Et donc, il parle de son attente sur le bord de la route, alors que les dames sont beaucoup moins intéressées par ce qui se passe. Et il dit que quelquefois, elles ont même envie d'aller faire pipi, donc elles veulent s'en aller. Et puis, visiblement, sa copine veut aller au cinéma. Bah, vas-y, toi, si tu veux aller au cinéma, moi, j'attends Bartali. J'attends ma pain en piaffant sur mes chaussures, sur mes sandales, et il va déboucher dans ce virage avec ce nez triste, c'est pas mal d'ailleurs, ce nez triste d'Italien joyeux, donc il va déboucher entre les Français qui font grise mine parce que c'est lui qui est en tête, et puis ces journaux qui volent au vent, voilà, enfin c'est une chanson intéressante en hommage à Gino Bartali. Alors, on a entendu aussi là traiter sur les antennes françaises, mais de façon très conséquente, l'anniversaire de la mort d'Édith Piaf, puisque Édith Piaf est décédée en octobre 1963. Et donc je ne vais pas refaire l'histoire d'Édith Piaf, tout le monde la connaît. Il y a peut-être une petite, deux, trois petites choses qu'on n'a pas dites sur Édith Piaf. C'est que Édith Piaf s'appelait en fait Edith Gassion, elle ne s'appelait d'ailleurs même pas Edith Gassion, elle s'appelait Giovanna Gassion. Et pourquoi Giovanna ? Alors Gassion parce que son papa était Gassion, mais sa maman était de Livourne. Elle s'appelait Line Marsa, et donc elle était venue en France, elle est émigrée en France. Alors je ne sais pas si elle est née, la maman, en France, ou c'est ses parents qui étaient venus, mais c'est une famille qui est originaire de Livourne, et elle avait épousé donc ce saltimbanque Louis Gassion. C'est une anecdote intéressante parce qu'on oublie que beaucoup de chanteurs français ont fait une origine italienne. Beaucoup de mamans, d'ailleurs, beaucoup ont des mamans italiennes. Et il faudra un jour qu'on fasse une émission là-dessus. Tout à l'heure, on a entendu Little Bob, et c'était le papa, lui, qui était italien. Voilà, alors c'était pour la petite histoire. Et il faut savoir qu'Édith Piaf est très chantée en Italie, a été très chantée. Elle continue à être chantée parce que dans les concerts ou les concours, il y a beaucoup de concours souvent pour les jeunes chanteurs, et bien, il n'est pas rare d'avoir quelqu'un qui chante un morceau d'Édith Piaf ou en version originale, pardon, ou plus sûrement en version italienne. Mais celle qui a le plus chanté Édith Piaf en Italie, c'est Milva, qui chante toujours, qui est bien âgée maintenant, mais qui chante toujours. Et on va l'entendre dans un morceau que chantait Édith Piaf, qui est Milord. Puis ça nous donnera l'occasion de rendre hommage aussi à Georges Moustaki, puisque c'est lui qui avait écrit la chanson.
Tu stavi stretto a lei, ma il volto ti arrossì, sentendoti guardare. Tu non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu. Negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho visto ritornare. Non devi piangere più, se lei ti vuol lasciare. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord. Se hai freddo il cuor, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord. Tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei. Io so chi sei, milord, i tipi come te si trovano prima o poi coi tipi come me. Non domandare a me perché ti voglio qui, ti posso consolare se dici solo un sì, e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà. Poiché d'amore mai nessuno morirà. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord. Se hai freddo il cuor, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord. Tu non Lord, i tipi come te si trovano prima o poi coi tipi come me. La 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 minor, la 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 minor, la 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 la.
Voilà, 1020, pas mal, hein?
Oh, c'est magnifique. Ouais. Quelle voix, quelle
Elle
voix.
Elle chante vraiment très bien. Alors, puisqu'on en est dans les commémorations, anniversaires, il y a plusieurs communes de notre région qui sont jumelées à des communes de la province de Belluno en Italie, dans les Dolomites. Alors, je voudrais rappeler un événement qui, en ce moment, dont on reparle beaucoup en Italie, notamment dans cette région. Et c'est le barrage de Vaillon, qui est un barrage qui est situé à Belluno, près de Belluno, à Longarone, exactement au-dessus de Longarone, la province de Belluno, qui est à une centaine de kilomètres de Venise. Donc, il y a un barrage qui avait été construit. C'était quelque chose d'absolument énorme. Il y a eu 3 ans de construction. C'était construction en béton armé qui avait comme destination, disons professionnelle, de permettre de produire de l'électricité. Donc, un barrage hydroélectrique. Il y avait 300 000 mètres cubes. Une longueur et une largeur très impressionnantes. Et il y avait 150 millions de mètres cubes, je crois, d'eau qui étaient retenus par ce barrage. Et il y a eu en 1963 une catastrophe. Alors, non pas comme ça arrive malheureusement quelquefois, un barrage qui cède. Il n'a absolument pas cédé, mais c'est un autre type de problème qui s'est produit. Quand la société qui l'avait construit avait fait toutes les analyses, elle avait fait, bien sûr, des analyses de terrain et elle pensait que ce terrain était tout à fait stable. Or, il y avait eu en novembre 60 une petite alerte, puisqu'il avait été construit de 1956 à 1959. En 1960, il y avait une petite alerte parce qu'il semblait qu'il y avait un petit glissement de terrain. Et pour donc essayer de parer à un éventuel problème, on avait fait baisser le niveau du lac, qui était dans l'eau qui était retenue, donc, et on le contrôlait quasi régulièrement. Et on estimait qu'il n'y avait pas de problème particulier, puisqu'il était toujours sous contrôle. Et par contre, le fait de l'avoir suivi avait même fait prévoir aux ingénieurs, c'est là où c'est absolument incroyable, ils avaient même prévu qu'il y aurait un incident dans la nuit du 9 au 10 octobre 1963, quelques jours avant, hein, ils avaient prévu qu'il y aurait un problème et qu'effectivement, il pouvait y avoir glissement de terrain. Ils avaient prévu même qu'il y aurait une vague qui se produirait suite à ce glissement de terrain. C'est dit donc, ce glissement de terrain, c'est donc la montagne, si je peux m'exprimer comme ça, qui s'effondre, en fait, qui glisse et qui provoque par sa chute une vague d'eau qui passe par-dessus le barrage. Et ils avaient prévu que ça pouvait se produire, mais qu'il y aurait une vague d'environ 20 mètres de haut, et ils avaient adapté le plan d'eau pour qu'elle ne puisse pas avoir derrière des conséquences dramatiques. Alors, ils se sont absolument pas trompés là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un glissement de terrain la nuit du 9 octobre au 10 octobre, exactement à 22h39, mais manque de chance, c'est pas une vague de la hauteur qu'ils avaient prévue, mais c'est une vague beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante, 10 fois plus importante, qui est passée par-dessus et qui a donc eu des conséquences absolument dramatiques, parce que la masse d'eau a détruit des localités comme Longarone, Rivalta, Villanova, Fae, etc. On estime à entre 1900 et 2000 personnes, je crois que c'est un peu plus de 1900 personnes qui ont péri et qui ont été tuées par ce désastre. Alors, il y a eu bien sûr des conséquences dramatiques derrière, avec des procès, et puis des conséquences dramatiques pour les familles, évidemment. Et l'un des responsables, d'ailleurs, s'est suicidé. D'autres ont été... L'ingénieur-chef, Biaden, avait été condamné à de la prison. Il est sorti après, il a eu une grâce au bout d'un an. Et en fait, ce qui semble avoir causé ce problème, c'est qu'il y avait dans le terrain la présence d'une couche d'argile. Et si cela avait été détecté, le barrage n'aurait jamais été construit, en fait. Mais donc, le barrage lui-même n'a pas cédé, mais c'est cette analyse de terrain qui a été malheureusement mal envisagé et qui a eu ses conséquences. Mais je peux vous dire qu'en Italie et dans la région notamment, ce drame a beaucoup évidemment fait parler. Et il y a beaucoup de commémorations. Il y a un musée superbe d'ailleurs à ce niveau-là, de façon très discrète et très parlante sur cette grosse erreur d'études de terrain. Alors on va écouter Cartelli di Fango. Cartelli di Fango, c'est une chanson de Gualtiero Bertelli, qui lui aussi est de Vénétie, on l'a passé souvent dans notre émission, et qui, pour remémorer ce drame, parle d'un fait qui, évidemment, quand on va commencer à essayer d'extraire d'un drame comme ça des personnes, on trouve souvent malheureusement des corps déjà de personnes décédées. Et là, il parle d'un soldat qui, en allant essayer de sauver des personnes, a trouvé le corps d'un petit enfant, d'un bébé, et qu'il en est... il a tellement été marqué par cet événement qu'il en est devenu quasi fou. Et donc Gualtiero parle du désastre de cette eau, des maisons et des corps qui ont été ensevelis, et en disant que ce que l'on voyait surtout, c'est ces panneaux de signalisation qui rappelaient qu'il y avait eu de la vie, qu'il y avait eu une école, qu'il y avait eu une église, qu'il y avait eu un bar, où il y avait effectivement... toute une vie avec aussi une scierie, enfin des lieux de travail, voilà. Donc Cartelli di Fango, les panneaux de boue de Gualtiero Bertelli.
Dov'è l'asilo che vive di bambini radunati di mattina in giro tondo? Il mondo intero sorride in quei visi spalancati sul fare del giorno. Carla la suora gioca con loro e non ha ancora smesso di giocare. È breve il tempo che le è donato per quei giochi che dovrà salutare. Ma questa volta no, il tempo è immenso, un tempo che non ha futuro, l'asilo è solo un caratello di fango e quei bambini il ricordo più duro. Albergo posta aperto i suoi battenti, all'alba di un giorno come tanti, ci sono gruppi di giovani partenti e questa sera ne arrivano altrettanti. Carlo è il portiere che esce dalla notte e non ha ancora voglia di dormire, dà una mano alle donne del mattino, lo fa volentieri, lui è sempre gentile. E anche questa volta aiuta e se ne va con un saluto che non ha domani. L'albergo è solo un carrello di fango, ultima casa di altri 100 come Carlo. E quale film porterà Don Lanese ai ragazzi del cinema a Piave, raccolti ancora una volta tutti insieme sotto quella coperta di pantano? Non ha un eroe qui sotto mano che li faccia sussultare con un unico grido al gesto fatale, al coraggio mai domo. Per questa volta il silenzio coprirà imprese di eroi mai nati. Il cine è solo un cartello di fango. Se qualche spettatore è qui rimasto, pianista del Perin, quale canzone suonerà stasera che le ragazze si fanno aspettare, che i ragazzi non le stanno a guardare? Non ha canzoni, né note, né voce che li possa richiamare a schermaglie d'amore, a risate allusive di mille altre sere. In queste ore scoprirà il silenzio di amori morti e mai nati, il Perin che è risorto dal fango, il suo piano ha da tempo scordato. Mostra la via che conduce sulla piazza della libertà. lì mi aspettano amici ed amiche, e parlando a notte si va. Di cosa parleremo nelle 100 serate che oggi possiamo immaginare? Ci lasceremo andare in un mondo di cazzate, come vuole la nostra età. Da questa sera nessuno sentirà progetti e improbabili storie. La piazza è solo un cartello di fango per un vecchio con il viso di ragazzo. Chi lavora alla segheria Protti? Chi dà vita alla Procond? Chi provvede alla filatura? Chi vive? Chi lavora qua giù? Dove sono le braccia di 100 invenzioni che ci hanno dato gioia e fortuna? Dove sono i sogni di 100 colori per la nostra vita futura? Sotto il fango riposano i sogni, dove muoiono tutti i colori. Tra cartelli di fango si muovono passi lenti, preghiere senza cori.
Voilà, où sont les bras de 100 inventions qui nous ont donné joie et bien-être? Où sont les rêves de 100 couleurs pour notre vie future? Sous la boue reposent les rêves, où meurent toutes les couleurs. Entre des panneaux de boue, les pas lents se bougent, enfin avancent, et des prières sans cœur. Alors, Dominique va nous faire, comme d'habitude, une petite chronique littéraire. Oui.
Je vais parler d'un livre qui est paru en France en début de l'année 2013, « N'aie pas peur si je t'enlace » de Fulvio Hervas, « Se ti abbraccio non aver paura », qui est publié donc par Liana Levi. C'est un roman de 272 pages, traduit par Marianne Faurobert. Il est important de noter qu'à la base de ce roman, il y a d'abord une histoire et que l'auteur est allé rencontrer le personnage principal, en quelque sorte, pendant un an. C'est l'histoire d'un père, Franco Antonello, qui décide qu'il va emmener son fils, autiste, en Amérique pour ses 18 ans. Alors, ils traversent les États-Unis en Harley-Davidson, puis rejoignent l'Amérique centrale pour terminer leur périple en Amérique du Sud. Fulvio Hervas vit à Trévise, il est l'auteur de plusieurs romans noirs, et il a signé là un roman absolument magnifique, un roman de cœur, drôle, qui pose plein de questions sur nos relations avec notamment la différence, le handicap, mais qui est une histoire absolument magnifique, qu'on lit d'une traite, comme un roman d'aventure, qui raconte l'amour fou d'un père pour son fils, en même temps qu'il dit avec beaucoup d'humour leur folle équipée à travers les Amériques. L'ouvrage a été tiré à 180 000 exemplaires en Italie, traduit dans de nombreux pays, y compris la Chine. Il va bientôt être porté à l'écran. C'est une merveille. C'est terrible pour un père d'apprendre que son fils est atteint d'un mal incurable et que chaque jour, chaque instant, il ne pourra s'empêcher de penser que s'il venait à disparaître, ce fils tant aimé n'aurait plus aucune personne sur laquelle s'appuyer. Il pourrait se perdre dans la foule, tomber sur quelqu'un qui ne supporterait pas sa différence. Il faut être là, toujours, gérer les bêtises, freiner la boulimie, prévenir les gestes désordonnés, les réactions imprévues, les comportements incohérents, gérer l'angoisse de l'enfant qui se bat tous les jours contre lui-même. Nous avons trouvé une laverie collée au hublot. Andrea n'a pas lâché des yeux le tourbillon de l'eau, les cabrioles du linge et la danse de la mousse contre la vitre. J'étais fasciné, moi aussi, me demandant ce qu'il y voyait, ce qui lui passait par l'esprit. C'est assez hypnotique, je l'admets, mais passé quelques secondes, mon attention se dissipe, tandis qu'Andrea semble entrer en résonance avec ce mouvement. Le tambour est un pôle d'attraction, et c'est le monde entier qui tourne à l'intérieur. Une femme venue reprendre son linge, le voyant scotché au hublot, me le montre. Vous avez vu qu'est-ce qu'il fait ? Il observe un univers parallèle. Il y a un trou noir dans cette machine à laver. Vous y croyez, vous, à cette histoire de trou noir qui nous met en contact avec d'autres dimensions ? Absolument. Ce jeune homme en a sûrement repéré un. Et dire que c'est ma machine préférée. Eh bien, vous devriez y relaver votre linge. J'y compte bien. Mais il faut un jeton spécial. Je lui offre une pièce de 2 €. Il faut ce qu'il faut. Cet extrait donne le ton du livre où se succèdent les moments d'humour, les épisodes burlesques et des échanges avec ce fils, souvent empreint d'une grande poésie et parfois aussi de gravité.
On rappelle donc que l'éditeur...
Alors, Fulvio Hervás, N'aie pas peur si je t'enlace, c'est paru chez Liana Levy en 2013.
Très bien. Alors, l'émission précédente, nous avions parlé de Verdi et j'avais dit que tu avais écrit un texte sur Giuseppe Verdi que les auditeurs pourraient retrouver sur notre site. Mais je crois que si tu nous le lisais en direct, ce serait aussi pas mal.
Nous avons le temps ? Le temps ? Le temps.
On a toujours le temps pour le talent.
Alors ? Verdi. Sur les murs, quelques lettres. Verdi. Un nom, bien sûr, mais pas seulement. Une aspiration, un combat. Tout un peuple enfin uni pour former un pays. Viva Emanuele, re d'Italia. Verdi. Né à Roncole, commune de Busseto, province de Parme. Nous sommes en 1813. Français 4 mois durant, Parme est encore sous domination napoléonienne. Verdi commence ses humanités au lycée à 10 ans. Inscrit à l'école de musique, il apprend l'orgue. Bientôt, il compose canons et fugues, cantates et pièces religieuses. 1832, il est recalé au conservatoire de Milan, faute de main, dit le jury. Cours de clavecin, son professeur joue dans l'orchestre de la Scala. 1834, premier concert public, un oratorio de Haydn, premier succès. Organiste, chef d'orchestre, auteur d'opéra, homme d'affaires, impresario, conseiller provincial, député, cuisinier à ses heures, fermier, vigneron, éleveur. Au panthéon des musiciens italiens, il occupe une place de choix. Rossini s'est tu, Bellini n'est plus, Donizetti est devenu fou. Seconde moitié du XIXe siècle, il occupe toute la place. De 1839 à 1893, près de 30 opéras, Nabucco, Rigolette, au Falstaff, Otello, la Traviata, le Trouvère, les Lombards à la première croisade, la bataille de Legnano, la force du destin. En attendant, 4 années terribles. Bonheur d'abord, puis anéantissement, il se marie en 1836 avec la fille de son mécène, naissent alors une fille, un an plus tard un garçon. En 1838, Virginia meurt, et puis c'est Icilio Romano, le fils. Tant de douleur, la femme de Verdi ne résiste pas, s'éteint en 1840. Nabucco, première représentation en 1842 à la Scala de Milan, un roi sombrant dans la folie pour avoir voulu transcender sa condition. Un peuple opprimé par une puissance étrangère, des Hébreux esclaves qui rêvent de liberté. « Ô ma patrie si belle et perdue » soupire-t-il en pensant à leur terre natale. Le compositeur a 29 ans, soir de la première, succès triomphal, il faut reprendre le cœur des esclaves, les traditions du théâtre sont bouleversées. Verdi n'a rien d'un agitateur, il est en quête de succès, son cœur des esclaves devient un hymne, rassemble les patriotes, musique brillante, fougueuse, lumineuse. Un Verdi nourri des chants, repris en chœur par les paysans ou colporté par les musiciens ambulants. Un Verdi qui cultive la grandeur et se moque des règles. En 1843, la Scala de Milan affiche les Lombards à la première croisade, délivrance de Jérusalem par les croisés, comme un appel à l'indépendance contre la domination des Habsbourg. Verdi exalte les troupes au combat, évoque Milan, sa campagne, ses collines et ses rivières, chœur des croisés, dramatisation, invocation à Dieu, prière. Cet art de faire dialoguer voix et instruments. Introduction, le chœur puis l'orchestre, ils échangent. Soudain, le ton se fait plus solennel, embrasement. Le chœur, plein de ferveur, déroule ses notes jusqu'à cet échange entre les bois et les voix, presque champêtre, ponctué par les basses, pour un peu on danserait. Nous sommes sous le charme, Verdi parle au chœur, de quoi galvaniser un public qui n'attend que cela. L'opéra à cette époque, peu de possibilités de divertissement. On se réjouit lorsqu'un nouveau spectacle est programmé. On commente la musique, on se régale d'une intrigue souvent bouleversante. Le mélodrame, comme on l'appelle alors, idéal pour faire connaître les nouvelles idées, liberté, indépendance, amour de la patrie. À Venise, le directeur de La Fenice attend son opéra. Verdi est très occupé. Ce sera une œuvre inspirée du drame de Hugo, Hernani. Mais il faut affronter la censure autrichienne qui ne tolère pas cette représentation d'un soulèvement contre l'autorité en place. Verdi obtient de ne pas modifier le titre de l'œuvre. Première représentation en 1844, total succès, on est subjugué par la musique. 2 ans plus tard à Bologne, le public insiste, il faut reprendre le chœur au Sommo Carlo à 3 reprises. Mars 1848 à Milan, c'est l'insurrection. Première guerre d'indépendance, épisode essentiel du Risorgimento. Administration et troupes autrichiennes chassées, gouvernement provisoire, le roi de Sardaigne, prince de Piémont, duc de Savoie, accorde son aide. Quelques jours après, abdication. Sur le trône, son fils, Victor Emmanuel II. Il faudra d'autres combats, mais le peuple est en marche. Verdi, à Paris, ne peut rester à l'écart, il rentre. Il ne se prend pas pour un héros, il n'a pas l'étoffe d'un combattant. Son combat pour la liberté et pour la patrie italienne, il le mène sur la scène. La bataille de Legnano, présentée en 1849, raconte une victoire italienne. 12e siècle, Milan assiégé par les troupes de Frédéric Barberousse. Avec l'aide du pape, l'empereur allemand est défait. Le peuple avait voulu assister de force à la répétition. Impossible de trouver des places. Le 27 janvier, c'est la première. Dès le chœur d'ouverture, tumulte général, acclamation, viva Verdi. 1857, La Fenice, Simon Boccanegra. Conjuration contre le premier doge de Venise, histoire de lutte contre un pouvoir en place, trahison, fragilité des idéaux, quête de nouvelles valeurs, convictions qui se perdent dans les dédales du sentiment, toute une société qui se cherche. À Venise, on apprécie guère à cause des personnages. À Reggio Emilia, le succès est total. En 1859, plébiscite à Parme pour l'annexion au Piémont, désigner les délégués qui se rendront à Turin pour annoncer les résultats. Verdi va voter. Une immense foule l'attend et l'accompagne dans l'église où l'on dépose son bulletin. Tonnerre d'applaudissements, délire. Verdi, qui ne le demandait pas, se retrouve délégué. Il est reçu par Victor Emmanuel II, présente le vote de Parme. En 1861, une lettre, Cavour lui demande d'être député. Verdi prend peur et se rend à Turin. La longueur des discours des hommes politiques l'effraie. Cavour sourit, Verdi accepte. Député, il siège pour la première fois le 18 février 1861, première du bal masqué 1859, Rome, une histoire de conspiration qui s'en prend au roi de Suède, la censure s'en mêle, on ne peut tuer un souverain. Il faut changer les noms, déplacer l'action, Verdi s'incline, enthousiasme et accueil délirant du public, vive à Verdi. En 1848, Verdi fait l'acquisition d'une propriété, Sainte-Agathe, commune de Villanova d'Adda, province de Piacenza. Il organise sa restauration, exécute les dessins, choisit les matériaux, propose les mesures pour l'agrandissement. Il y habite en 1851. La maison de campagne devient villa, domaine de plusieurs hectares, géré par le maître. Le compositeur a encore tant à dire et il voyage. Saint-Pétersbourg, la force du destin. Paris, Don Carlos. Le Caire, Aïda. Puis il se retire, mais il n'a pas tout dit. Il avait écrit Macbeth d'après Shakespeare, c'est maintenant le tour d'Othello puis de Falstaff. Nous sommes en 1897. 2 ans plus tard, il fait construire à Milan la maison de retraite des musiciens. Il peut rentrer dans son domaine. En 1901, pour ses funérailles, 850 choristes dirigés par le grand Toscanini entonneront Va Pensiero, puis le Miserere du Trouvère. Le 12 mars 2011, à Rome, après la représentation, quelqu'un s'écrie « Viva l'Italia !» Avant le bis, Riccardo Muti, chef d'orchestre, un des plus grands, prend la parole. Si nous tuons la culture sur laquelle est construite l'histoire de l'Italie, vraiment notre patrie sera belle et perdue. Nabucco, cœur des esclaves, émotion, ferveur, recueillement, larmes des choristes, le chef digne et très ému, le public se lève, recueillement absolu, seule la musique de Verdi. Thank you.
Voilà, donc Nabucco, merci et Dominique, et merci aussi pour ce texte que tu as écrit. C'est bien Dominique qui a écrit ce texte qui résume complètement la vie de Verdi. Merci Laurent pour la technique.
Et merci puis, Alain, merci Laurent.
Et puis à bientôt, la prochaine
fois. À très bientôt.
Fois. Voilà, bonsoir à tous.
Bonsoir.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.